En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La conscience humaine, dont la véritable nature demeure encore inconnue, est au cœur des réflexions de cette deuxième journée de colloque organisée par l'association Être Humain et avec le concours de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques. Ces réflexions peuvent être inhérentes à plusieurs domaines qui vont de la science à la philosophie en passant par la théologie. Canal Académie vous propose d'écouter ce deuxième colloque portant sur les états modifiés de conscience. Au total, 6 conférences sont retransmises sur notre site. Approche scientifique élargie sur l'origine de la nature et de la conscience, c'est le titre de l'intervention de Jean-François Housset, biologiste, ancien directeur de recherche au CNRS. Écoutez dès maintenant son intervention.
Nous venons de voir dans les précédentes interventions les grands questionnements philosophiques et religieux sous-tendus par l'étude phénoménologique et expérimentale des états modifiés de conscience au regard de notre nature humaine. Mais il y a aussi en écho les grands questionnements scientifiques des neurosciences touchant à la neurobiologie de la conscience. Et les conclusions de ces deux approches semblent apparemment parfois bien différentes, voire irréductibles. La question abordée ici sera donc de chercher s'il est possible d'unifier conceptuellement ces voies d'études distinctes dans une représentation commune élargie au niveau des concepts, minimale dans sa formulation, mais avec une insertion dans le contexte scientifique qui demeurerait préservée. Une telle synthèse pourrait, par l'ouverture qu'elle apporterait, se révéler dynamisante en termes de thématiques scientifiques et coordination des recherches. Au long de ces derniers siècles, principalement dans la pensée occidentale, apparemment la plus analytique, deux représentations distinctes continuent à s'exprimer en ce qui concerne l'origine et la nature de la conscience, selon une apparente logique binaire, rationnelle, irrationnelle, d'exclusion. Nous avons ainsi le matérialisme scientifique strict, selon lequel la conscience et toutes les propriétés qui lui sont rattachées, l'aptitude cognitive à connaître, le soi, le non-soi, l'esprit, la mémoire, les émotions, le ressenti des sentiments, mais aussi sa part subconsciente d'importance considérable, plus de 95% de la conscience, résulte exclusivement de l'organisation fonctionnelle spatio-temporelle des cellules du cerveau, principalement neuronales, au nombre d'environ 100 milliards et des millions de milliards de leurs connexions. La conscience a ainsi émergé durant les quelques dernières 500 millions d'années de l'évolution biologique, conséquemment à la mise en place des structures fonctionnelles du cerveau, le pro-reptilien contrôlant les fonctions vitales, le paléomammifère avec le système limbique contrôlant les comportements, enfin le néocortex pour les fonctions sensorielles et cognitives supérieures. Pour reprendre un terme utilisé par les tenants de cette thèse, cette représentation naturalise l'homme. Elle se dit moniste, fustigeant l'erreur de Descartes, une seule substance en cause, la matière. Les analyses et les interprétations des neurosciences sont principalement fondées sur ce point de vue. D'un autre côté, nous avons le spiritualisme, selon lequel le corps matériel n'est qu'une enveloppe, un véhicule habité par une essence de nature supérieure, intemporelle, immortelle, doté d'une intelligence fusionnelle infinie, qualifiée âme, esprit, et dont la source est divine. Cette représentation est dualiste, reconnaissant deux substances, l'une matérielle, l'autre divine. Les religions puisent leurs aspirations du spiritualisme. En philosophie, l'ontologie fonde ses réflexions sur le concept impersonnel de l'être. Une telle antinomie ne serait-elle qu'apparente? Le véritable enjeu en termes d'acquisition de connaissances ne serait-il pas de bien déterminer les complémentarités? En effet, opposer ces deux points de vue, les rendre irréductibles, conduit à de faux problèmes qui n'apportent aucun progrès en termes de connaissance de la réalité sous-jacente à la conscience de l'être humain. Comme en physique, tout dépend sans doute de la position cognitive de l'observateur. À un niveau d'abstraction très élevé, il n'y a, selon une approche ontologique, qu'une seule substance, l'énergie et l'intelligence qui constituent l'être, qui construit, manifeste pour notre perception tout ce que nous appelons réalité. La matière étant elle-même une part de cette énergie primordiale. À un niveau d'abstraction plus restreint, nous nous situons près des processus de la manifestation. Il y a alors différenciation apparente, selon notre compréhension humaine, en divers aspects conduisant par leurs qualités et propriétés à distinguer au plus élémentaire dans notre univers scientifiquement observable plusieurs niveaux d'expression, probablement en interaction, et si nous descendons à la dernière marche, à n'en reconnaître que la facette matérielle. Toujours en référence à la physique théorique, une autre complexité apparaît également puisque l'observateur, par son observation, peut modifier l'objet observé. Ajoutons enfin une difficulté supplémentaire, sachant que l'homme conscient s'interrogeant sur la conscience constitue un système dans lequel l'observateur, le connaissant, et l'observé, le connaissable, sont d'origine d'une seule et même substance primordiale et que la pensée du connaissant est conditionnée aussi par la nature de l'observé. L'objectivité pourrait ainsi, à un certain niveau de perception, être un leurre dans une réflexion en boucle. Cet exposé, qui se voudrait syncrétique, se propose dès lors deux objectifs. Premièrement, analyser les avancées actuelles des neurosciences pour en reconnaître l'importance des apports et pour en situer les limites. Deuxièmement, tenter de développer, dans une pensée plus globale, une approche modélisatrice minimale de la nature et origine de la conscience, pouvant conduire à une synthèse des deux conceptions antinomiques matérialistes et spiritualistes. Abordons les données scientifiques. La neurobiologie de la conscience est l'un des domaines essentiels de recherche en neurosciences. Les bases expérimentales du modèle s'appuient sur plusieurs méthodologies complémentaires. Études anatomo-fonctionnelles concernant la mise en place du système nerveux et des structures cérébrales au cours de l'évolution et du développement. Méthodes expérimentales dites des lésions spécifiquement induites et études des déficits fonctionnels correspondants. Analyse fonctionnelle clinico-expérimentale et chirurgicale chez l'homme, dont certaines aires cérébrales ont été lésées par une pathologie vasculaire ou traumatique. Enfin, méthode non-invasive associant l'activité électrique, imagerie fonctionnelle en regard de diverses tâches cognitives et analyse des réseaux neuronaux impliqués. En l'état actuel de la méthodologie des neurosciences, seul l'aspect matériel des mécanismes en jeu dans le cerveau est pris en compte. On notera incidemment que ces études ont bien mis en évidence l'extrême importance hors le cortex, qui est la structure la plus récente, des zones sous-corticales telles l'insula, l'hippocampe, des noyaux du cerveau limbique, dont l'amygdale et autres structures, et du tronc cérébral, dans l'apparition du soi, dans la gestion des fonctions vitales, dans le contrôle des comportements et de l'expression des personnalités. De nombreux et éminents neuroscientifiques se sont efforcés de modéliser les résultats scientifiques du domaine en cohérence avec les fonctionnalités de la conscience. On s'appuiera principalement dans cette brève description sur un modèle neurobiologique qui contient des informations de grand intérêt sur l'émergence de la conscience et qui, sur un plan général, fait consensus en neurobiologie en attribuant au cerveau matériel l'origine exclusive de la conscience. Les bases générales du modèle des neurosciences prend appui sur quatre points. Tout d'abord, l'élément moteur le plus ancien et toujours actif, l'homéostasie, processus dynamique qui est de gérer, préserver, ajuster, réguler la cellule ou l'organisme aux fins de survie de toute créature vivante. Le modèle parle de gestion de la valeur biologique. Le second point souligne l'importance chez les métazoaires de la différenciation cellulaire neuronale, avec tout d'abord des connexions nerveuses relativement simples, puis la structuration se complexifie au cours de l'évolution, avec émergence de nouvelles structures du système nerveux et des capacités fonctionnelles identifiables chez les insectes, les poissons, les reptiles, les oiseaux, les mammifères et les primates et au summum, l'extraordinaire développement du cortex préfrontal dans l'espèce humaine Sapiens sapiens. Le point important souligné par le modèle est que peu à peu, les organismes vont développer très tôt une forme précoce de sensibilité régulant les processus biologiques, physiologiques, internes et les comportements externes en réponse aux conditions environnementales. Le troisième point souligne l'importance des images, intégration des signaux de régulation de cette sensibilité précoce qui vont peu à peu s'organiser par un mécanisme dit de cartographie au niveau du cerveau, donnant peu à peu des cartes approximatives puis raffinées. Ce processus de mise en œuvre cartographique reposerait sur la structuration spatiale des neurones et des projections spatiales des fibres neuronales comme une grille avec des relations géométriques et des communications axonales longues au niveau de différents espaces de travail interconnectés entre cortex et structures neuronales des noyaux à la base du cerveau. Enfin, le quatrième point sur lequel s'appuie le modèle réfère au stockage et à la mise en mémoire de toutes les informations dans le cerveau. Mais selon certains calculs, la quantité d'images serait telle que le cerveau n'aurait pas la capacité matérielle du stockage. Le processus de mémoire comporte en effet acquisition des données, enregistrement et remémoration. Le modèle distingue donc deux espaces de travail dans le cerveau. Un espace dit des dispositions, sorte d'information codée sous forme restreinte, un espace de reconstitution mémorielle permettant au cerveau, à partir de ces formules codées, de rejouer et recréer approximativement les cartes sensorielles initiales. C'est le processus de remémoration. Le processus des dispositions est le plus ancien, ce serait une sorte de réserve de programme basique, de savoir-faire, qui permettrait sans conscience très élaborée de faire face au développement de l'organisme et aux défis de l'environnement. C'est l'intégration de ces éléments de base qui va induire, selon le modèle des neurosciences, l'émergence de la conscience. Une fonctionnalité appelée esprit va peu à peu émerger au cours des centaines de millions d'années d'évolution à partir de l'activité cartographique du cerveau et de la production d'images, qui vont donner une représentation des événements du corps et du monde extérieur. La fabrication des images et donc le développement initial de l'esprit apparaît tôt dans les structures anciennes du tronc cérébral supérieur et postérieur, puis dans les noyaux du système limbique, enfin dans l'insula et les cortex sensoriels. Le processus est ensuite amplifié par les neurones d'association du cortex. Le second élément qui apparaît, ce sont les émotions. Apparues progressivement, elles seraient des programmes complexes, en partie automatisés, d'actions élaborées lors de l'évolution. Les émotions se déclenchent lorsque les images traitées par le cerveau activent certaines régions, l'amygdale, le lobe frontal. Par exemple, activation du lobe préfrontal ventromédian dans l'état de compassion. Mais la principale région impliquée est le cortex insulaire, qui, en interaction avec d'autres structures du cerveau, engendre des sentiments corporels et des sentiments primordiaux. Il y aurait ainsi une émergence très précoce d'un proto-soi, sorte de témoin révélant à ses débuts, confusément, les premiers éléments implicites appelés mentaux. Sa base est un type d'image mentale du corps produite dans les structures neuronales de cartographie corporelle. La construction du soi serait bâtie par étapes à partir du proto-soi. Le soi s'appuierait sur le dit esprit, lui-même appuyé sur les images, devenant ainsi conscient. Le soi procède des sentiments primordiaux et des sentiments élémentaires d'existence. Il est aussi en relation avec l'action et le sentiment de savoir et de contrôle. Au plus haut, enfin, émergerait avec le développement des structures neuronales corticales le soi autobiographique. Selon le modèle, il se définit en termes biographiques qui vont du passé aux anticipations de l'avenir. Il forme le moi social et le moi spirituel. Il introduit dans notre esprit une instance connaissante. Il s'appuie sur des aptitudes encore plus grandes, mémoire, raisonnement, langage, et donc avec émergence de nouveaux modes d'homéostasie au niveau de la culture et de la société. La conscience dans ce modèle des neurosciences serait donc un état qui embrasse tous les éléments fondateurs élaborés à partir de l'esprit, image, enrichi par le développement des sentiments à partir des sentiments primordiaux, atteignant au plus haut le soi autobiographique et ses expressions. L'ensemble, sous-tendu par la complexité structurale du cerveau, certains parlent de la structure la plus complexe de l'univers, conduirait à l'émergence d'une nouvelle fonctionnalité, la conscience. Selon le modèle, le cerveau construit la conscience en engendrant le processus du soi au sein de l'esprit quand il se trouve à l'état de veille. Voyons les limites qui peuvent être attribués au modèle neurobiologique de la conscience. Soulignons d'abord les acquis considérables des neurosciences dans l'élucidation des mécanismes en jeu au niveau du cerveau, dans l'expression de la conscience, que ce soit dans les fonctions biologiques de base, dans le traitement des affects, dans le contrôle des comportements, jusqu'aux processus sensoriels et cognitifs les plus élaborés. Les données de l'évolution du cerveau sont aussi riches d'enseignements sur notre devenu et notre devenir. Il convient cependant de souligner en l'état certaines limites de ce modèle qui demeure une tentative d'extrapolation des données expérimentales. Un premier point étonne tout d'abord, c'est l'affirmation par la neurobiologie que la conscience n'est que la fabrication du cerveau matériel et que le cerveau est son unique origine. On fera remarquer qu'en l'état, aucune preuve scientifique positive de cette assertion n'a jamais été apportée. Peut-être serait-il souhaitable d'ailleurs, eu égard à l'importance du domaine de la conscience, qu'il soit fait usage plus souvent dans les interprétations de l'expression scientifique classique « tout se passerait comme si ». On a vu aussi que le modèle accordait une place très importante à l'activité cartographique du cerveau, support à la formation des images et essentiel dans le modèle pour expliquer la base de l'émergence de ce qui est nommé l'esprit. Mais le modèle stipule aussi que cette activité cartographique ne peut pas être mise en évidence, mais ne peut être constatée que par le sujet lui-même, ce qui place cette hypothèse essentielle à la limite du champ scientifique. La mémoire et donc le stockage des informations et leur remémoration demeurent encore peu compris, non pas tant au niveau des structures anatomiques concernées qui sont connues, mais au niveau des mécanismes en jeu. Le modèle n'intègre pas ou mal les états modifiés de conscience, dont la dissociation de l'état conscient et du corps physique, parfois considérés comme des aberrations, des anomalies, des états pathologiques. Citons comme autre exemple de non-prise en compte le peu de recherches scientifiques approfondies sur l'hypnose, dont les mécanismes véritables demeurent encore inconnus, étant donné apparemment l'absence de véritable soutien pour ce type de recherche. Le modèle, certes, apporte des informations de grand intérêt sur les localisations anatomiques, les liens entre les régions du cerveau. Il décrit aussi certaines organisations spatiales des neurones, en couches bidimensionnaires, en grappes, etc. Il identifie les réseaux des projections neuronales, mais il n'établit pas les mécanismes qui, au niveau cellulaire, transforment les signaux cellulaires et chimiques en ressentis conscients, le ressenti des sentiments, c'est-à-dire le corollaire mental. Le modèle apparaît fondé sur l'hypothèse du monde matériel comme seul existant. Or, la physique des particules et de l'univers montre, dans une démonstration de plus en plus certaine, même s'il faut attendre encore d'autres recherches et d'autres développements théoriques, que dans notre univers observable, cette part accessible à l'exploration scientifique, La matière dite matière ordinaire, celle dont nous sommes faits, et toutes nos galaxies, c'est-à-dire celle à laquelle fait référence le modèle matérialiste des neurosciences, compterait dans le total pour environ et seulement 5%. Considérez enfin que la conscience émerge de la convergence de l'ensemble des éléments décrits dans le modèle, cartographie, image, esprit, ressenti, soi, mémoire, et résulte exclusivement du fonctionnement intégré du cerveau, semble une conclusion aussi bien générale. Dès lors, est-il possible d'élaborer une représentation plus générale, plus élargie, qui puisse aussi être un cadre référentiel pour la réflexion? La démarche est en elle-même dès l'abord rendue difficile du seul fait que nombre de réflexions très approfondies et très érudites ont déjà analysé les questions liées à la nature et à l'origine de la conscience. Et il est bien évident que sur un tel sujet, il soit bien hardi, même imprudent, de chercher à progresser plus avant. Et tout ce qui va être exposé maintenant est sans doute l'expression d'hypothèses, voire, pour certains, un exercice d'imagination créative. Un modèle plus élargi devrait répondre à des critères précis, avoir des bases qui s'appuient sur un très petit nombre d'idées fondamentales, permettre d'inclure toutes les avancées expérimentales des neurosciences, dépasser les limites heuristiques que s'impose le modèle strictement matérialiste des neurosciences, inclure toutes les fonctionnalités extériorisées des états modifiés de conscience et de la psyché humaine, être un socle référentiel à la fois pour les recherches scientifiques et les recherches philosophiques et personnelles. Le modèle proposé ici repose sur deux idées. Tout d'abord, un postulat, l'existence d'un principe actif. Cette dénomination neutre créée ici reprend une expression de l'ancienne chimie. On y ajoute, certes, des majuscules, mais aussi un sens très élargi, alors sans doute bien au-delà des notions inhérentes à notre univers scientifiquement observable. La nature de ce principe actif, à l'évidence ontologique, est d'être, c'est-à-dire pour des raisons non explicitables dans le postulat, de se manifester comme un principe d'existence au sein des univers créés, en exprimant un état de conscience à des degrés divers en fonction des structures fonctionnelles disponibles, en induisant la formation évolutionnaire de structures adéquates matérielles ou autres favorables à la manifestation de sa conscience, reflète sa nature, en puisant pour ce faire dans la grande source mémorielle infinie des réalisations des causes-effets dans les univers. Plusieurs commentaires peuvent être faits à propos de ce dit principe actif. Le postulat étant par définition non démontrable par la science, il apparaît donc invisible en sciences expérimentales et ne s'oppose en rien au développement scientifique actuel en neurosciences, conduit dans un cadre conceptuel plus restreint. La dénomination de principe actif est suffisamment neutre pour ne pas scientifiquement vouloir introduire quelque idée de déité. En revanche, cette dénomination large permet assurément à chacun, s'il en éprouve l'inspiration, de lui donner tout le contenu religieux ou philosophique qu'il souhaite, voire à lui reconnaître intrinsèquement deux polarités contrastées dont l'une peut être compassionnelle et d'harmonie universelle, sans que cela ne déborde sur l'activité scientifique elle-même. Le postulat n'exprime aucune finalité. Or, la propriété d'être liée à sa nature, le principe actif n'a aucune finalité quant aux moyens mis en œuvre, ni d'ailleurs apparemment aucun état d'âme. Quant aux conséquences de ces processus créatifs pour les individualités biologiques, sa nature d'être abandonne, donc élimine tous les moins-être de certaines de ses manifestations matérielles. Nos interprétations humaines limitées n'ont probablement aucun sens et donc pas d'existence au niveau de cette polarité active du principe actif. Tout ce qui peut être est, c'est peut-être le fondement du dit hasard. Et les mécanismes en jeu qui s'expriment dans ce que nous dénommons l'évolution apparaissent fondés sur la survie de la structure momentanément la plus adaptée, que ce soit au niveau moléculaire, cellulaire ou des organismes. Et ces mécanismes implacables qui se sont exercés depuis plus d'un milliard d'années d'évolution en biologie sont encore bien évidemment en œuvre. La seconde idée est le concept d'interface. Le cerveau biologique, dans l'espèce humaine mais aussi dans le règne animal, serait une interface façonnée par l'évolution sous la pression du principe actif exprimant des manifestations d'expression consciente progressivement plus élaborées telles qu'elles apparaissent selon les niveaux de l'évolution biologique. Cette interface matériel, le cerveau, permettrait ainsi la manifestation émergente de la conscience du principe actif global et individualisé dans ce compartiment correspondant à l'énergie matérielle de notre monde univers dont on a vu qu'elle ne représentait qu'environ 5% du total. Plusieurs lignes de réflexion peuvent être appliquées à ce concept d'interface. Selon ce concept, tous les mécanismes complexes, les fonctions du cerveau, à tous les niveaux d'intégration décrits par les neurosciences, serait l'expression fonctionnelle de l'interface cerveau, tant au niveau de l'organisme et de l'environnement matériel et culturel, mais aussi avec les niveaux énergétiques supérieurs de l'univers observable. On pourrait aussi inférer en probabilité que notre interface matérielle ne serait pas nécessairement la seule dans notre univers observable, le dit principe actif ayant également, par hypothèse, façonné d'autres interfaces pour son expression consciente à ces autres niveaux d'énergie. Actuellement, à l'état des recherches, les principaux candidats seraient la matière sombre, 35%, l'énergie sombre, 60%. Si on voulait adresser plus avant cette hypothèse, on pourrait envisager que les expériences fonctionnelles de la conscience de l'être humain soient en partie conditionnées par les interactions entre ces deux plus proches interfaces, celles liées au compartiment de la matière ordinaire, le cerveau, et celles liées à la matière dite sombre. Ce point, encore largement hypothétique, est hors du modèle des neurosciences, mais il peut être proposé dans ce modèle. À la différence du principe actif qui demeure hors de l'atteinte de la recherche scientifique, les interfaces sont définies, telles le cerveau matériel, comme des structures fonctionnelles, constituées des composantes de l'univers observable. Ceci signifie que ces interfaces postulées, qui permettraient l'expression des différents niveaux de la conscience, demeurent potentiellement dans le champ scientifique. Le point important demeurant cependant d'en définir les méthodes expérimentales d'investigation. Le concept d'interface pourrait aussi apporter de nouveaux éclairages sur différents aspects de l'expression de la conscience qui sont difficilement explicables dans le modèle des neurosciences. Nous en mentionnerons quatre. L'archivage des données et la mémoire. Le problème posé par le stockage des informations dans le cerveau pourrait trouver une autre ouverture interprétative, puisque d'autres structures de notre univers observable, plus pérennes que notre cerveau matériel, pourraient en être dépositaires. Le cerveau interviendrait principalement dans les processus de filtrage, de transduction des signaux et de remémoration. La notion d'inconscient pourrait alors être réexaminée au regard d'un cerveau en interface avec les données temporelles archivées dans une structure matérielle autre que notre matière ordinaire. Les bases de la décision volontaire. Les neurosciences montrent que les décisions volontaires que nous prenons, donc consciemment, ne sont en fait qu'un écho de la décision réelle prise quelques millisecondes plus tôt dans notre subconscient. Semblable observation jette une ombre sur ce à quoi nous tenons tant notre libre arbitre. Tout se passerait comme si le principe actif exprimait sa propriété d'être, sa conscience exprimée, au niveau du subconscient humain, en quelque sorte en attente d'une plus grande fonctionnalité de l'interface cerveau. L'émergence de la pleine conscience dans l'espèce humaine pourrait donc être à ses débuts en termes de temps évolutif. Les états de conscience modifiés et leurs propriétés. Action à distance, communication entre psyché et humaine, action en relation avec le temps, séparation partielle de la conscience et du corps physique, phase transcendante des états de mort imminente et hors corps, seraient plus facilement intégrés en considérant les propriétés d'interface élargie du cerveau. Enfin, la distinction sémantique entre personnalité et individualité trouverait, semble-t-il, dans ce modèle élargi, un nouvel éclairage. La personnalité est la forme exprimée de l'être humain dans notre environnement matériel qui résulte de l'activité de notre cerveau et de ses réglages issus des déterminants génétiques, du développement biologique, des activations fonctionnelles, structurelles, corticales et sous-corticales, de l'impact de l'environnement et de ses aléas, des conditionnements éducatifs ou autres, des communications culturelles et sociales. Tous ces réglages font chaque personnalité unique et évolutive. Cette expression unique de la personnalité est temporaire et disparaît avec la mort de l'organe qu'il sous-tend, le cerveau. Le modèle élargi pourrait proposer la persistance des informations concernant la personnalité dans des structures mémorielles plus pérennes dans notre univers observable. D'autre part, l'individualité. L'individualité serait la forme substantielle de l'être humain, en étant une part individualisée du principe actif. Elle serait une manifestation permanente de la propriété d'être de l'être humain. Elle porterait donc en expression d'elle-même une conscience individualisée, beaucoup plus étendue que l'expression de la conscience dans le modèle matériel ordinaire. La conscience de cette individualité pourrait être perçue lors de certains états modifiés de conscience, phase transcendante des états hors corps ou états méditatifs profonds par exemple. En conclusion, allant au-delà de l'antinomie matérialisme-spiritualisme, la représentation proposée ici, bien qu'aussi hypothétique que le modèle tout cerveau exclusivement des neurosciences, pourrait ouvrir dans un contexte de synthèse une clarification des voies d'étude de la nature et origine de la conscience. Du point de vue de l'objet, en élargissant le champ des recherches vers des voies novatrices, unifiant les complémentarités des approches scientifiques, associant physiciens et neuroscientifiques pour aborder l'étude des mécanismes en jeu au niveau de l'interface de l'expression de la conscience entre la matière ordinaire et d'éventuelles autres structures dans notre univers observable. En unifiant les recherches centrées d'une part sur le cerveau et d'autre part sur la psyché humaine. Du point de vue du sujet, en soulignant l'importance fonctionnelle interfaciale du cerveau comme principal outil d'investigation de plus grande réalité, au-delà de l'environnement matériel, tant sur un plan personnel, état méditatif profond, état de conscience modifié, mais aussi sur un plan pluridisciplinaire, dans un environnement scientifique adéquat. On rappellera enfin ce point prospectif sur les enjeux. Les progrès scientifiques concernant notre compréhension de la conscience et de la psyché humaine représenteront à coup sûr l'avancée fondamentale majeure dans notre siècle. Ce qui importe, c'est l'élargissement du champ des hypothèses et le développement des connaissances fondamentales qui, par une meilleure compréhension de la conscience, conduira l'homme à approcher ce qui est, dont il est une part active et créative. Merci.
Canal Academy vous a proposé cette retransmission de ce deuxième colloque intitulé « Les états modifiés de conscience ». Vous avez pu écouter l'intervention de Jean-François Housset, biologiste, ancien directeur de recherche au CNRS. Son propos évoquait l'approche scientifique élargie sur l'origine et la nature de la conscience. Je vous rappelle que ce colloque était organisé par l'association Être Humain et avec le concours de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques. Nous vous invitons à écouter la première partie de ce cycle de colloques enregistré en mars 2012 et dont le thème portait également sur les états modifiés de conscience. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le fichier PDF qui accompagne les propos de Jean-Pierre Jourdan.